À cœur vaillant, la voix est libre, de Laurent et Laurette Costi. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser avec des logiciels libres et des services respectueux des utilisatrices et des utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi est administrateur de l'April et fait cette chronique avec sa fille Laurette. Au programme aujourd'hui, cyberstructure et le piège de la peau de phoque dans le boyau.
Et nous voici donc mardi 25 juin 2024 pour la dernière chronique de la saison. On vous en promet des bien belles, vous allez rire aux larmes et apprendre des tas de trucs super sympas à placer dans les conversations familiales pour paraître plus intelligent ou intelligente que vous n'êtes.
Ah ben, en parlant d'intelligence, je peine encore à clarifier certains points autour de l'empreinte et de la signature des fichiers. Je me suis dit que, au lieu d'essayer d'expliquer à d'autres des choses que je n'ai pas comprises, il était sans doute plus simple d'aller directement interroger la source.
Oh mais voilà qu'une bonne idée que c'est! Je vais enfin comprendre des trucs. Laisse-moi deviner qui tu vas inviter, et j'ai ma petite idée. Émilie, peut-être, la pote libriste de Sweden's Crumbledish. Elle avait pas un ami qui s'y connaissait plutôt bien en cyberstructure et qui considère l'Internet comme un espace politique?
C'est lui, Stéphane Bortsmeyer, hein, dont le livre Cyberstructure, l'Internet, un espace politique, est juste à 22 € aux éditions CEF. Je le recommande. Et tu vas voir, il explique bien. Allô Stéphane, tu es en attente sur la ligne invité depuis 8 h ce matin. Je sais que tout va bien pour toi. Peux-tu expliciter ces notions d'empreinte de fichiers et de signature?
Alors attention, la cryptographie c'est compliqué et la sécurité informatique c'est compliqué. Là, on va mêler les deux. L'empreinte est aussi appelée condensat ou hash parce qu'en anglais c'est plus chic. Elle est le résultat d'un calcul qu'on fait sur le fichier qui le réduit, le condense en une série de chiffres plus courtes que le fichier. Le point important ici, c'est que le calcul de l'empreinte ne nécessite pas de connaître un secret quelconque. Tout le monde peut la calculer.
Les hashkicks et le condensat. Il y a moyen de faire des jeux de mots avec ça. Mais bref, restons concentrés. Et la signature alors?
On y vient. L'empreinte n'apporte guère de sécurité. Si un site web affiche « Téléchargez notre super logiciel libre qui va tout faire et le café. » Et pour vérifier qu'il est authentique, calculez son empreinte. Vous devez trouver 6B4E70, etc. Cela ne sécurise rien. Un méchant qui aurait piraté le site web peut tout aussi bien modifier le logiciel, calculer l'empreinte et la publier. Au contraire, les signatures, elles, nécessitent de connaître une information qu'on nomme la clé secrète. Techniquement, les opérations de signature incluent entre autres le calcul d'une empreinte, mais surtout, la signature va dépendre non seulement du fichier signé, mais aussi de la clé secrète. Le méchant cité plus haut serait donc bien embêté. Ne disposant pas de la clé secrète, il ne pourrait pas générer une signature convaincante. Donc les signatures, c'est plus compliqué à faire que les empreintes, mais c'est plus mieux.
Super, merci pour ces claires explications. Ah, c'est limpide. Je vais intercéder auprès de mon père pour qu'il te fasse revenir plus souvent pour expliquer plein de trucs. En attendant, la bise à Émilie et à son pote Sweden Scrummeldish et à Fofone.
Je réécoute la chronique 18 d'un cœur vaillant, la voix est libre, pour bien comprendre ce que tu me racontes, et je n'y manquerai pas. Je vous laisse, car je dois aller m'expliquer auprès d'experts en cryptographie et en sécurité qui se roulent par terre de désespoir, car j'ai dû condenser des notions compliquées en une émission, certes très sympa, mais trop courte. Plein de zéros et de 1 positifs dans vos boyaux.
C'est bon, elle est contente d'avoir enfin des vraies explications qu'elle comprend. Bon, j'ai pas écouté, mais je trouve qu'il explique pas si bien que ça, finalement. Hein. Et d'ailleurs, tu vas faire comment pour appliquer ça dans l'association dans laquelle tu es en alternance, hein?
Mais il est jaloux, le papinou, c'est trop mignon. Il est tout chafouin, maintenant. Mais oui, oh, toi aussi, ça t'arrive de bien expliquer des trucs, parfois. Oh bah, tiens, par exemple, pas plus tard qu'il y a pas longtemps, quand tu m'as expliqué pourquoi le néolibéralisme emmenait l'humanité à sa perte, bah, j'ai tout compris, d'abord.
Ah bah voilà, une bonne nouvelle. Et sinon, du coup, ça se passe comment dans l'asso? Ça avance cette transition numérique vers un système d'information plus respectueux des utilisateurs et utilisatrices?
Bah écoute, comme tu l'avais suggéré, on a demandé une ouverture d'un Framaspace auprès de Framasoft, car notre objet et notre taille correspondaient aux critères que l'on retrouve sur la page du projet. Je cite, espace réservé exclusivement aux associations et collectifs militants. Bon bah cool, déjà, c'est tout nous. Et ensuite, je cite à nouveau, les espaces Framaspace sont limités à 50 comptes et un espace de 40 gigas maximum. Bah c'est encore une fois parfaitement nous, c'est cohérent avec notre besoin.
Ouah, ils sont vraiment forts chez Framasoft. Tu sais que je connais des gens bien là-bas.
Oh, ouah, mais du coup t'es super important. Oh là là, bravo.
Oui, je sais, merci. Bon, et sinon, les membres s'approprient ce merveilleux outil? Comment fais-tu pour les convaincre de se passer de leurs outils auxquels ils sont habitués et qui leur paraissent plus simples à cause des habitudes acquises?
D'abord, bah, c'est primordial, la gouvernance. Mon directeur, pour pas le citer, était convaincu et demandeur, donc sans ça, je pense pas qu'on aurait avancé. Ensuite, j'ai fait intervenir un tiers qui connaît des gens bien chez Framasoft. Exprimer des choses avec un pas de côté permet un partage synchrone et donc un ancrage profond de la démarche pour une réussite à long terme.
Alors là, je dis carrément. Et je vais même appuyer le propos. Figure-toi qu'en début d'année, j'ai suivi une formation en cybersécurité proposée par France Travail. En passant, merci France Travail. Bon, 399 heures de cybersécurité pour tout te dire. Bon, pas dans la même journée, hein. Eh bien, un truc que j'avais déduit comme toi de mes interventions et de mes vécus est confirmé par les méthodes et les normes qui régissent la cybersécurité. L'implication de la gouvernance dans le processus est un incontournable.
C'est à la fois évident et à la fois trop souvent négligé. Du coup, à l'asso, on condense plutôt pas mal dans le nuage désormais. On utilise Framaspace et nos données ne sont plus sur des clouds dont le seul but est de récupérer un max de ces dites données pour mieux enfermer.
Ça me fait une excellente transition pour te narrer une situation que j'ai accompagnée et pour illustrer cette avidité des plateformes de cloud. D'un autre côté, comme j'écris le texte, c'est hyper facile de faire croire que la transition tombe bien alors que, finalement, elle était habilement pensée et préparée.
Et tarte à la choucroute et au minster, t'avais anticipé ça que j'allais dire tarte à la choucroute et au minster. Toc l'abricot.
Alors ne change pas de sujet, s'il te plaît. Ce que je vais dire est grave. J'accompagne une association qui a pris une excellente décision. Changer ses outils pour le mieux. Jusqu'à ce jour, elle utilisait Dropbox sans se rendre compte à quel point ce truc les manipulait. Je n'avais jamais touché à ce machin et j'avais raison. Et devoir mettre les mains dedans pour aider la structure à démêler leurs besoins réels de la réalité que Dropbox avait réussi à construire n'a pas été chose facile. J'ai vraiment morflé.
Allez, vas-y, raconte-moi comment Jean-Claude, membre de l'asso, se faisait empapaouter par ce service qui, avant de penser le bien-être de la structure, privilégie d'abord la stratégie d'enfermement et son chiffre d'affaires.
Alors pour le chiffre d'affaires, on comprend vite, hein. Le premier texte qui apparaît en haut à gauche de l'écran avant même le mot accueil, c'est « Mettez à jour votre carte bancaire ».
Ça peut paraître symbolique, mais c'est absolument révélateur. D'abord le pognon, ensuite le reste. J'ai rien contre l'argent, hein. C'est nécessaire dans notre société, mais ça doit rester un moyen et non une fin. Je crois qu'on l'a déjà dit dans cette émission, mais on le répétera tant qu'il restera sur cette planète, une personne qui n'aura pas compris.
Alors là, bien dit, et on est déjà deux au moins à être d'accord.
Et ouais.
Je continue, car j'ai potentiellement de la matière pour une journée tellement j'étais énervé. L'interface est ni fait ni à faire. Je pourrais demander l'avis de Mywen, qui milite à Framasoft et qui travaille pour rendre les interfaces facilement utilisables et cohérentes. Mais j'ai trop peur d'être responsable d'une crise cardiaque que ce foutoir à boutons de Dropbox pourrait déclencher.
Ah mais oui, mais tu m'as dit que des boutons marketing étaient mélangés à des fonctionnalités de gestion de tes fichiers. Genre tu cherches à compresser un truc pour le télécharger et bim, on te suggère vivement de signer pour l'offre supérieure. Mais non, d'une pipe en bois, y a personne dans cette boîte qui a une conscience et un respect des utilisateurs et utilisatrices sérieux.
Attends, c'est pas fini si avec ça. J'ai voulu télécharger des dossiers et là, rebim, vous avez essayé de compresser un nombre trop grand de fichiers. Pas d'indication claire de limite, donc il faut tâtonner pour trouver soi-même cette limite. C'est du génie, j'ai failli bouillir.
Oh bah puis si on était suspicieux, on pourrait penser qu'ils font tout pour empêcher de partir de leur écosystème.
Mais non, que vas-tu penser là, voyons? Bon, après je te passe les fenêtres qui peuvent s'ouvrir intempestivement pour te suggérer d'envoyer tes photos dans le cloud. Enfin. Bah ouais, plus tu enverras des données, et plus ce sera compliqué d'en sortir. Surtout si tu ne peux compresser que 3 fichiers à la fois. Mais bon, on va me dire que je fais du mauvais esprit.
Oh, quel enfer. On pourrait tenter l'analogie avec un boyau dont les parois sont tapissées de peaux de phoque. C'est extrêmement difficile de faire marche arrière.
C'est ça. Dropbox, c'est un intestin grêle tapissé de peaux de phoque. Ce serait presque drôle si la réalité ne démontrait pas l'efficacité d'un tel système pervers. L'asso avait opté pour le service ouvrant 2 téraoctets de capacité et avait un besoin réel évalué au plus large à... 200 gigaoctets. Il y a un facteur 10 entre le besoin et le service utilisé. Et l'asso va même sans doute descendre ce besoin à 50 gigaoctets en pensant les usages de ces données. Par exemple, pour les vidéos, pourquoi pas un serveur PeerTube mutualisé avec son réseau, hein ?
Bon, bref, faites comme cette association, engagez une réflexion sur votre transition numérique et vous verrez à moyen terme tous les bienfaits de cette démarche. Il y a désormais des ressources multiples pour vous aider et vous accompagner. Emancipasso, les chatons, Framasoft, les structures du libre qu'on peut retrouver sur l'agenda du libre, j'en passe et des meilleurs.
Et investissez dans la formation plutôt que dans des licences de logiciels privateurs de liberté. Les membres de l'asso vont monter en compétences et ça, c'est que du bon pour la structure. Sur ce, je vais aller farter du boyau et installer des pitons pour faciliter la remontée des structures de l'ESS. Par exemple, Nextcloud est un super python pour sortir des clouds à valeur de données, tel le grand Sarlacc à valeur de Jedi.
Eh bien,
à tantôt, heureuse framarpenteuse de Framaspace.
Nextcloud, si je me trompe pas, c'est codé en PHP et JavaScript, pas en Python. Mais bon, je chipote. Allez, la bise, mon farteur de boyau préféré.